J'invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre au chapitre 5. Nous arrivons vraiment à la fin de cette épître. 1 Pierre 5. Et pour replacer dans notre esprit un petit peu au moins le contexte de ce chapitre, nous allons le lire en entier. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 1. 1 Pierre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église est des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Et que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous conduire dans ta parole, de nous éclairer par ton esprit, de révéler à nos cœurs ce que nous ne connaissons pas. Seigneur, que tu nous aides à mettre vraiment ta parole en pratique pour la gloire de ton nom. Amen. On se rappelle que cet épître est écrit à un peuple qui souffre. Hein? Peut-être que dans votre Bible, il y a un titre pour cet épître, c'est la souffrance. Souffrance et la gloire, peut-être. Mais en tout cas, il est bon de reconnaître ici que Pierre parle beaucoup de la souffrance dans cet épître, particulièrement au chapitre, depuis le début, mais particulièrement au chapitre 4, il en parle beaucoup. Et aussi au chapitre 5. Et quel est le sentiment des hommes en général quand ils sont en proie à la souffrance? Je crois que de manière générale, on peut avoir tendance à lever le poing vers Dieu. Et on entend souvent cette question, mais si Dieu existe, hein, pourquoi est-ce qu'il permet de telles choses? Et quand on regarde dans le monde autour de nous, il y a de telles souffrances, de telles tragédies qui arrivent un peu partout, il n'y a pas de pays épargné, et on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu ne fait rien? S'il est bon, pourquoi ne fait-il rien? On a même un petit livret ici hein, qui s'appelle « Que fait Dieu quand tout va mal ?» hein? « Que fait Dieu quand tout va mal ?» Et puis quand on est chrétien, on n'a pas forcément une attitude différente des autres hommes. On ne dit pas, si Dieu est bon, Voilà, pourquoi ne fait-il rien? Mais on peut, comme dans le psaume 44, regardez le psaume 44, que vous connaissez peut-être, ne pas comprendre pourquoi les choses arrivent à ceux qui sont normalement ceux qui sont aimés de Dieu. Alors ce psaume, très rapidement, parle de Dieu qui fait des choses. Hein, au début, hein, Dieu nous nous avons entendu de nos oreilles des hommes qui parlent de ce qu'ils ont entendu, le peuple qui parle de ce qu'il a entendu, des bienfaits de Dieu, de sa main qui a chassé les nations, de sa droite qui est intervenue. Verset 4, fin du verset 4, il dit, c'est par ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Il dit, et puis parce que tu les aimais, tu agis envers nos pères parce que tu étais plein d'amour à leur égard. Et puis, au verset un peu plus bas, donc il parle de leur attitude, hein, de ce qu'ils font. Verset 9, nous nous glorifions en Dieu chaque jour, nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, verset 10, il y a un changement de ton brutal. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi. Et puis, il y a beaucoup de choses comme cela. Qu'ils disent, hein. Verset 14, tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie, de risée pour ceux qui nous entourent. Un peu plus loin, donc je saute, je ne peux pas tout lire, mais il dit, tout cela nous arrive, verset 18, sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Il dit, ce n'est pas à cause d'une désobéissance que ça nous arrive. Notre cœur ne s'est point détourné. Et nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et puis voilà, verset 24, il dit, réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière et notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Et c'est parfois ça peut être parfois le cri que peut pousser le chrétien ou les chrétiens qui sont dans la souffrance. Peut-être et certainement les lecteurs de Pierre connaissent ce psaume et peut-être criaient-ils comme cela aussi à Dieu. L'apôtre Paul, même dans Romains 8 que nous avons lu tout à l'heure un peu plus bas, eh bien, il cite une partie de ce psaume. C'est pourquoi on nous met à mort tout le jour. Hein. Il le cite dans ce psaume pour exprimer la souffrance que peut connaître le peuple de Dieu alors qu'il est en train de le suivre. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'on souffre, Dieu devient la première personne de laquelle on peut avoir tendance à se déconnecter, soit en disant s'il est bon, pourquoi ne fait-il rien? Ou soit en disant il nous a oubliés. Il ne nous regarde plus, alors que nous continuons à le servir. C'est-à-dire, on a dans la souffrance un rapport particulier, parfois, selon que l'on est chrétien ou non, que l'on cherche à avoir avec Dieu. Et Pierre, dans cette épître, parle beaucoup de la souffrance. Il a donné beaucoup d'exhortations concernant la souffrance. Mais quand il arrive sur le point de conclure son épître, il fait une chose en plus, pour encourager ceux qui souffrent. Et c'est le verset, chapitre 5, 1 Pierre 5, verset 10, il dit ceci, 1 Pierre 5, verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, et il vous rendra inébranlable. Et il enveloppe tout ce qu'il a dit en attirant, si vous voulez, en attirant le regard, l'attention de ses lecteurs vers Dieu. Vous souffrez, je vais vous dire une chose. le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera, vous fortifiera, et puis vous rendra, vous affermira et vous rendra inébranlable. Et c'est intéressant de voir que Pierre aurait pu dire, mais Dieu est tout-puissant, ne vous inquiétez pas, il va vous venir avec son armée, il va lier cet homme fort, renverser tout ce qu'on appelle souvent à renverser, en tout cas, il ne fait pas cela. Il les appelle juste, il les amène juste à méditer sur Dieu et sur son œuvre. Et c'est ça qui est une chose réconfortante pour le croyant. Quand il souffre, la chose qu'il doit apprendre à faire, c'est à méditer sur Dieu, sur son caractère et sur son œuvre. Ce n'est pas forcément en demandant pourquoi ça m'arrive. Hein. On peut crier pourquoi, comme le psaume 44. Pourquoi ne nous entends-tu pas ? Habacuc disait la même chose. Hein. Et Habacuc, il a fait la même chose après, quand il ne comprenait pas, même la réponse de Dieu ne la comprenait pas, il a commencé à méditer sur ce que Dieu fait. Et c'est ce que Pierre fait ici. Et c'est ce que nous voulons considérer ce matin. Ce que Pierre dit en substance à ses croyants et à nous aussi, c'est que ne croyez pas que Dieu est loin, qu'il est impuissant pour vous sortir de la souffrance. Ne laissez pas la souffrance vous aveugler concernant Dieu, poser les mauvaises questions concernant Dieu. Méditez vraiment sur qui est Dieu et ce qu'il fait. Et cela est propre à encourager. Alors j'ai intitulé ce message « Réalité réconfortante pour l'âme qui souffre ». Des réalités réconfortantes pour l'âme qui souffre. Et la première chose que l'on voit ici, c'est la première réalité que l'âme qui souffre doit considérer, c'est l'assurance du cœur aimant de Dieu. L'assurance du cœur aimant de Dieu. Pierre dit le Dieu de toute grâce. On eût préféré le Dieu tout-puissant, hein, peut-être le Dieu omniprésent, mais Pierre dit le Dieu de toute grâce. Non pas le Dieu de grâce, tout simplement, ce qui est vrai, mais le Dieu de toute grâce. Et toutes sortes, toutes formes, c'est varié. Le mot, on l'utilise parfois en disant varié, le Dieu des grâces variées. Un peu comme ce que Pierre avait dit au chapitre 4, vous vous rappelez, chapitre 4, je crois, fin du chapitre 4, où il avait dit, non, verset 10, chapitre 4 plutôt, il dit comme de diverses grâces de Dieu. Et Pierre dit ici, la première chose que vous devez mesurer, c'est l'assurance du cœur aimant de Dieu. Dieu est le Dieu de toutes sortes de grâces. La grâce, ça définit la faveur de Dieu, sa disposition à accorder ses bienfaits, motivés par lui-même et pas par les œuvres que nous faisons, ni par les circonstances. Le fait qu'il soit lui-même la source de toute bonté, de tout amour, de toute bénédiction, ici. Et la grâce de Dieu, dans cette épître, est évoquée, je crois, 10 fois, de manière différente. 1 Pierre 1, verset 2, où l'apôtre Paul dit, je crois que c'est 1, verset 2, où il parle à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Au verset 10, il parle, il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Au chapitre 1 et au verset 13, il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Au chapitre 2, verset 19, il dit, car c'est une grâce que Dieu vous fait de supporter les afflictions par motif de conscience. Au verset 20, il dit encore que, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce que Dieu vous fait. C'est une grâce devant Dieu. Chapitre 3, verset 7, il dit encore, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. La vie que Dieu nous fait est une grâce. D'accord? Et je crois qu'on doit être conscient et le remercier chaque jour pour cela. Chapitre 4, verset 10, il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Dieu déverse sur ses enfants chaque jour diverses grâces. Ici. Et puis au chapitre 5, verset 5, il dit ceci, de même, chapitre 5, je pense que j'ai mis verset 5, c'est ça. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et vous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le verset 10 que nous avons lu, et puis au verset 12, il dit, verset 12, c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable grâce. Est la véritable. Donc voilà ici au moins 10 fois où il prend ce même mot pour exprimer dans différents aspects que Dieu est un Dieu de grâce. Mais là il dit que Dieu est un Dieu de toute grâce. Cette multiplicité d'utilisation montre que non seulement, on l'a dit, Dieu fait grâce, mais il est constamment en train de faire grâce par toutes sortes de moyens. Il fait grâce à ses enfants. La grâce de Dieu, disait quelqu'un, est multiforme. Elle prend toutes sortes de formes, elle s'adapte à toutes sortes de situations, elle répond à toutes les nécessités de quelque ordre qu'il soit concernant ses enfants. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Dans 1 Corinthiens 15, il parle qu'il a travaillé, mais il dit, mais c'est la grâce de Dieu en moi qui travaille. Et il est conscient de cette grâce de Dieu qui l'a accompagné partout. Ce que Pierre souligne, je crois ici, c'est que Dieu n'agit pas avec parcimonie. Il déverse sa grâce. Quand il dit Dieu de toute grâce, il veut dire que Dieu déverse abondamment, continuellement, richement et de manière multiple sa grâce sur ses enfants. Et ailleurs dans l'Écriture, on trouve cela. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu, elle est toujours surabondante. Éphésiens 1, versets 7 et 8, que nous avons lu la semaine dernière, il dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Sa grâce est extrêmement riche. Et en Éphésiens 2, verset 7, que nous avons lu aujourd'hui, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer au siècle. » C'est-à-dire que l'apôtre Paul dit « Dieu veut montrer une chose, au siècle, à tous les siècles, dans toutes les générations, il y a une chose qu'il veut montrer aux hommes. Il dit, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu veut montrer au siècle à venir, quand l'apôtre Paul écrit ça, il parle de tous les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce. Il veut la montrer à la personne de Jésus-Christ, mais il veut la montrer par ce qu'il fait aussi dans la vie de tous ses enfants, de tous ses rachetés. Et Pierre dit que Dieu est le Dieu de toute grâce. Et on ne saurait lire l'Écriture, chers frères et sœurs, sans être interpellé par cette omniprésence de la grâce de Dieu qui agit partout et diversement. Pierre veut que ses lecteurs saisissent vraiment cette réalité, qu'ils voient même la souffrance comme une grâce, on a lu au chapitre 2. Que tout ce qui arrive dans votre vie, prenez-le comme la grâce de Dieu. Ça va bien, prenez-le comme la grâce de Dieu. Vous souffrez pour une quelconque raison, considérez cela comme la grâce de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de toute grâce. Vous êtes son enfant, il est le Dieu de toute grâce. Il est, bien sûr, il n'est pas question de souffrance à cause de notre péché. Si on, l'apôtre Paul dit, si vous souffrez parce que vous êtes meurtrier, que, vous méritez ce que vous... Mais si vous souffrez parce que vous êtes chrétien, la souffrance vient vous trouver sans que vous ayez cherché particulièrement, eh bien, il dit, prenez cela comme la grâce de Dieu. Et même dans Philippiens, il disait ceci, il disait, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de, quel mot il dit, souffrir pour lui. Et donc même la souffrance est considérée comme une grâce. Ce n'est pas quelque chose qui tombe naturellement sous le sens. Hein. On aime bien appeler grâce les choses qui nous sont positives, les choses qui améliorent notre confort, la réussite à un examen, Dieu m'a fait grâce, j'ai réussi, la guérison, Dieu m'a fait grâce, j'ai été guéri de la maladie, Dieu m'a fait grâce, j'ai pu me marier, j'ai trouvé une femme ou un mari, Dieu m'a fait grâce, j'ai des enfants, et c'est vrai, il faut remercier Dieu pour toutes ces grâces, ce sont des grâces, ce sont des grâces, mais nous avons du mal à dire, je souffre, Dieu me fait grâce. Et je le remercie pour cette grâce. Ça, c'est difficile. Hein? C'est très difficile à dire ça. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça vraiment. D'accord? J'ai lu des gens qui l'ont dit, qui l'ont écrit, qui ont... Mais moi, je ne l'ai pas dit et je n'ai pas entendu le dire. Mais Pierre veut qu'on le dise. Il veut qu'on saisisse, que ses lecteurs saisissent que la souffrance par laquelle vous passez... Il écrit à l'époque de Néron. Hein? C'est pas, il ne parle pas de petites souffrances comme celles que nous pouvons connaître. Il parle de vraies persécutions que les chrétiens connaissent. Ils sont jetés au lion, le lion rugissant qu'on a vu la semaine dernière. Et il dit, Dieu est le Dieu de toute grâce. Ce que vous le vivez par la grâce de Dieu. Et il faut le prendre et l'accepter comme cela. Dieu de toute grâce qui manifeste richement, abondamment, continuellement sa grâce, même au sein de la souffrance. Et donc, quand on est assailli par la souffrance et que la douleur nous terrasse, la méditation du caractère de Dieu est ce qu'il nous faut. Méditer sur le fait que Dieu est le Dieu de toute grâce. Et que ce qu'il nous accorde par grâce. Comme avait fait Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous chantons cela, n'est-ce pas? Chaque pas que nous faisons, chaque chant, chaque oraison, chaque fois que Dieu répond, c'est seulement par grâce. Chaque montagne qui se dresse, chaque vallée qui s'abaisse, chaque épreuve qui nous blesse, c'est seulement, est vaincu par sa grâce. Donc on voit ici que la méditation du caractère de Dieu nous permet de surmonter toutes choses. Dieu est le Dieu de toute grâce. Et donc Pierre dit, voilà une réalité réconfortante pour vous qui souffrez. Vous devez être assuré du cœur aimant de Dieu à votre égard. Une deuxième réalité ici que l'on peut voir dans ce verset 10, c'est que Dieu a un dessein pour ses rachetés. Le dessein de Dieu. Deuxième réalité, c'est le dessein de Dieu pour ses rachetés. Il dit de Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il y a trois choses fortes que Pierre dit ici. D'abord que les croyants sont l'objet de l'appel de Dieu, de ceux qui sont appelés en Jésus-Christ et de ceux qui sont appelés à sa gloire éternelle. Il dit, voilà la perspective que vous devez garder sous les yeux. C'est là ce que Dieu fait et qui garantit ce qu'il fera, c'est ce qu'il dit ici. C'est une chose qui a un caractère immuable. Dieu vous a appelé. La Bible dit que Dieu, les dons et l'appel de Dieu sont... Comment ? Irrévocable. Il ne revient pas, il ne se repent pas sur ce qu'il a fait. Et donc, peut-être vous souffrez, peut-être vous avez l'impression d'être abandonné par Dieu, mais il dit, Dieu vous a appelé en Jésus-Christ, à la gloire éternelle. Ça, c'est quelque chose qui est fait. Vous ne pouvez pas mettre cela en doute. Et c'est ce qu'il fait. Et Pierre aussi, de même qu'il parle beaucoup de la grâce de Dieu, parle aussi beaucoup de l'appel de Dieu. Regardez, dans 1 Pierre 1, verset 15, il dit, je suis dans 2 Pierre, ça ne marchera pas, 1 Pierre 1, verset 15, il dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Il ne dit pas « pense, mais puisque Dieu est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. » Mais il dit, non, il met leur esprit sur le fait que Dieu les a appelés et que le Dieu qui les a appelés est saint. Et donc, eux aussi doivent être saints dans toute leur conduite. Chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Dieu vous a sorti de là, il vous a appelé de là, et puis il vous a appelé à être dans sa lumière. N'oubliez pas ça, quand vous souffrez, mettez cette réalité sous vos yeux. Vous êtes l'objet de l'appel de Dieu, des ténèbres à son admirable lumière. 2:21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. À quoi ? À la souffrance. Donc il dit, de même que Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, de même que Dieu vous a appelé à sa gloire éternelle, eh bien Dieu aussi vous a appelé à la souffrance. Et donc quand vous souffrez, sachez aussi que cela fait partie de la vocation, de votre vocation, de l'appel que Dieu vous a adressé. Chapitre 3, verset 9. Il dit, ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés, non pas parce que vous souffrez, à parler, rendre parole dure contre parole dure, rendre, malhonnêteté pour malhonnêteté, coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Il dit non, il dit, bénissez au contraire. Pourquoi ? Parce que Dieu vous appelle à cela. Il vous appelle à passer des ténèbres à la lumière, mais il vous appelle aussi à vous comporter d'une manière digne de cette vocation. Et puis, le verset, chapitre 5, verset 10, que nous avons lu. Et donc, Pierre dit, ici, Dieu vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle. Il ne reviendra pas sur cela. Que ce soit une pensée qui vous réconforte lorsque vous souffrez. Il y a donc plusieurs choses, on l'a vu, auxquelles Dieu appelle les chrétiens. Mais Pierre insiste ici dans ce passage sur le fait qu'ils sont appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Et certainement pour faire un contraste avec la souffrance temporelle qu'ils sont en train de vivre. Et c'est là une vérité qu'on trouve dans l'Écriture, que les chrétiens sont appelés à la gloire éternelle. 1 Pierre 5 et 4 souligne cette 5 versets 1 et 4, je crois, souligne cet appel à la gloire. Regardez en 1 Pierre 5 ici, il dit, je vous exhorte, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Pierre dit, moi, il dit, il doit participer à une gloire qui vient. Et puis même, il dit aux anciens, au verset 4, « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » aussi. Et puis au verset 10 que nous avons lu, bien, il dit aux chrétiens, tous les chrétiens, « Vous êtes appelés à la gloire éternelle. » Dieu vous appelle à sa gloire éternel. Et on trouve ça dans le psaume, déjà dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, mais juste deux versets, le psaume 73 que nous chantons souvent aussi. Il dit, cependant, je suis toujours avec toi, verset 24. Tu m'as saisi la main droite et tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. On chante ça souvent, vous rappelez, tu me conduiras par ton conseil et tu me recevras dans ta gloire. Mais l'apôtre Paul le dit très clairement dans 1 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. Je vous lis. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous comme un père et pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc Paul dit la même chose que ce que Pierre dit ici. Hein. Il dit, marchez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est une perspective, il veut que les croyants de Thessalonique aient cette perspective devant les yeux. L'apôtre Pierre veut que les croyants dispersés qui souffrent aient cette perspective aussi devant les yeux. Et nous devons avoir cette perspective que quand on est un enfant de Dieu, on est appelé à son royaume et à partager sa gloire. Et cela doit être un réconfort quand la souffrance vient nous assaillir. Et donc, quel contraste, l'apôtre Pierre disait, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise, d'accord, de l'épreuve comme si voilà, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il dit non, c'est pas extraordinaire, c'est normal. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut fixer vos yeux. Il faut fixer vos yeux sur le fait que vous êtes appelés au royaume et à partager la gloire éternelle. Alors bien sûr, c'est un appel à un état qu'il est difficile d'exprimer. Si vous voulez exprimer ce que c'est que la gloire éternelle, vous pouvez, mais il y a des choses concernant Dieu, quand on essaie de les exprimer, on est obligé d'utiliser des mots, et les mots qu'on utilise pour l'exprimer, il faut encore essayer de les comprendre. Hein. J'ai lu parfois, la gloire de Dieu, c'est l'ensemble de ses perfections. Mais qu'est-ce que les perfections de Dieu, hein, voyez ? Il y a des choses qui nous dépassent dans ce que la parole de Dieu dit. Mais on sait que c'est un état certainement bien majestueux, bien saint, bien pur, bien glorieux. C'est quelque chose que, parfois comme Paul disait, hein, qu'il n'est pas permis peut-être aux hommes de dire, peut-être à cause de la faiblesse de leur langage. Mais ce que l'on sait, c'est que c'est une vérité, que Dieu appelle ses enfants à vivre un état que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui et qui est bien loin de ce que peut représenter la souffrance que nous pouvons expérimenter aujourd'hui. Donc Dieu a un dessein pour ses rachetés, c'est de les conduire à la gloire éternelle. Mais on voit aussi une troisième réalité que l'apôtre Pierre souligne, c'est que les souffrances sont des instruments de Dieu dans ce dessein. Dans ce dessein que Dieu a d'amener ses enfants à partager la gloire éternelle, eh bien, les souffrances sont l'instrument de Dieu. Ce qu'il dit, regardez le verset, je le relis, verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. » Et donc, Pierre dit clairement ici que les souffrances sont les instruments de Dieu que Dieu utilise pour mener à bien, si j'ose dire, son projet. Certes, il dit qu'elles sont passagères et temporelles, après que vous aurez souffert pour un peu de temps. Alors, ça peut être peu de temps, ça peut être peu dans l'intensité, quelque chose comme ça, mais quand on souffre, on a toujours l'impression que c'est long, que c'est trop long, n'est-ce pas ? Une minute de souffrance, c'est long. Okay ? Quand on va chez le dentiste, et puis qu'il vous dit, je vais piquer, ça va faire un peu mal, mais ça ne va pas durer longtemps. Hein, ça sera un peu... Mais bon, vous appréhendez quand même, hein, même le petit peu de temps que ça dure, je n'ai pas envie de l'avoir. Hein, parce qu'on a l'impression que ça fait mal et que c'est toujours longtemps. La souffrance dure toujours trop longtemps, bien trop longtemps. Mais Pierre dit ici que Dieu permet la souffrance pour... peu de temps. Et même si la souffrance dure toute la vie, c'est quand même peu de temps. Parce que sa perspective, c'est pas juste la souffrance dans la vie, c'est la souffrance comparée à la gloire éternelle. Il y a deux mots ici, il y a le mot éternel et puis il y a ici le mot peu de temps, sur lequel l'apôtre Pierre insiste. Peu de temps en comparaison avec l'éternité. D'accord ? C'est peu quand on compare souffrance et gloire. D'accord? La gloire est bien plus, comment je vais dire ça, bien plus grande hein, que la souffrance. L'éternité est bien plus grande que le peu de temps que dure la souffrance. Et cette vérité est dans l'Écriture aussi. 2 Corinthiens 4, 17, l'apôtre Paul dit, car nos légères afflictions, elles sont légères. Parfois, on les trouve lourdes, n'est-ce pas? Terrible à porter. C'est trop, je ne peux pas supporter cela. Mais l'apôtre Paul dit, nos légères afflictions, 2 Corinthiens 4, 17, du moment quand présent, donc il parle du poids de l'affliction et il parle de sa durée, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est pour ça qu'il faut porter les yeux vers ce que Dieu est en train de faire. Donc l'objectif ici, à la fois de Pierre et de Paul, est de faire porter les regards sur les choses éternelles. Ce n'est pas simplement de minimiser la souffrance des personnes, mais c'est de la mettre en perspective avec autre chose. Et si on est focalisé que sur la souffrance, voilà, on n'est pas encouragé. Mais quand on peut la mettre en perspective avec autre chose, disent Pierre et Paul, eh bien, on comprend ce que Dieu fait et cela devient un encouragement. Donc, voilà, comprendre que les souffrances, Dieu les utilise, sont des instruments passagers qu'il utilise pour un peu de temps. Mais elles sont indispensables au plan de Dieu. Elles sont indispensables au plan de Dieu. L'apôtre Pierre dit, après que vous aurez souffert. C'est-à-dire que, on a l'impression qu'il dit, si vous n'avez pas souffert, ça ne se fera pas. Hein? Dieu fera ceci et après que vous aurez souffert. Il faut qu'il y ait un après souffrance. Donc il faut qu'il y ait une souffrance qui aille jusqu'à son terme pour qu'après cet accomplissement de la souffrance, eh bien, Dieu réalise ce qu'il doit réaliser. Donc ça montre que la souffrance est un instrument qui doit accomplir son effet avant que d'autres choses puissent prendre place. Et donc l'appel à la gloire éternelle, en ce sens, devient aussi un appel à la souffrance. Parce qu'on ne peut pas connaître la gloire éternelle sans connaître la souffrance. Et c'est ce qui est dit du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre le dit dans cette même lettre. 1 Pierre 1, verset 10, regardez ça, il dit « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance quoi ? Les souffrances de Christ, et ensuite quoi ? Et la gloire dont elle serait suivie. Souffrance et gloire. C'est tout le thème de l'épître de Pierre. La souffrance et la gloire pour Christ. Et Pierre dit, Dieu vous réserve la gloire éternelle après que vous aurez souffert. Parce que c'est en Christ qu'il nous accorde ces choses. Et il est hors de question que ça soit fait autrement que comme ça a été pour Christ. Et donc Pierre souligne au long de l'épître ce lien entre la souffrance et la gloire. Je l'ai lu, 1 Pierre 1, verset 1, 10. 1 Pierre 5, verset 1. Je ne sais pas si vous aviez fait attention quand on l'a lu, mais regardez 1 Pierre 5, verset 1. Pierre dit, j'adresse aux anciens des exhortations, moi, ancien comme eux, qu'est-ce qu'il dit ? Témoin de quoi ? Des souffrances de Christ et participant à la gloire. Souffrance et gloire. Chapitre 5, verset 5, on l'a lu tout à l'heure. 1 Pierre 5, 5, il parle, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il demande, soumettez-vous, d'accord ? Soumettez-vous tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. L'humilité est souvent vécue comme une souffrance, n'est-ce pas ? Mais après, il dit, Dieu fait et grâce aussi aux humbles. Et puis le verset 10 que nous avons lu. Il n'y a pas, en fait, de gloire sans souffrance. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi, quoi dit l'apôtre Paul, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Romains chapitre 8, verset 17, nous l'avons lu tout à l'heure, je crois. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est comme s'il dit, la gloire là ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas là la souffrance. Souffrance et gloire sont liées. Il y a tel état de maturité, telle compréhension, telle vision que l'on ne peut pas avoir, ou que l'on ne peut avoir, qu'après les souffrances. Un peu comme Job qui dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Il dit ça après qu'il ait souffert. Mais maintenant, après la souffrance, mon œil t'a vu. La souffrance permet de voir Dieu, de voir Christ, de voir les choses spirituelles d'une manière différente. Et c'est ça que Dieu fait en nous quand il permet que nous passions par la souffrance. C'est quand on est saisi dans les mâchoires de la souffrance que l'on n'est conscient de certaines réalités spirituelles ou qu'elles prennent même leur sens dans notre vie. Job dit aussi, Dieu sauve le malheureux de sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Et ça, donc l'instrument de Dieu, la souffrance est un instrument que Dieu utilise dans notre vie. C'est pour cela que nous devons voir dans la souffrance que Dieu est un Dieu de grâce. Et qu'il nous fait grâce, même lorsque nous souffrons. La souffrance accomplit son œuvre de fortification du chrétien. C'est ce que Pierre dit au verset 10. Je reprends le verset. Après que vous aurez souffert pour un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Il vous fortifiera. Il vous affermira. Il vous rendra inébranlable. Quelque part, il dit que cette formation du caractère chrétien n'est pas possible sans un passage au creuset de l'épreuve. Ça n'est pas possible. Dieu rend ses enfants forts par la souffrance qu'ils ont à endurer. Et c'est pour ça que Pierre dit, Dieu de grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il dit, vous perfectionnera. Il vous fortifiera, il vous affermira et il vous rendra inébranlable. Je voudrais juste terminer avec une dernière réalité que Pierre souligne, c'est que c'est en Christ que tout cela se passe. Il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce dont il est en train de parler, il parle à des chrétiens, à des enfants de Dieu qui sont en Christ et qui souffrent pour le nom de Christ. Il dit que tout ce que Dieu accomplit, Dieu est un Dieu de grâce en Christ. Dieu vous appelle à la gloire éternelle en Christ. Vous souffrez aussi en Christ et vous êtes fortifié, affermi, rendu inébranlable aussi en Christ. Tout s'opère en Christ et par Christ. C'est en Christ que la grâce de Dieu se manifeste. Il est celui qui a été élevé à la gloire après avoir souffert. Il est celui qui a été élevé à la perfection par les souffrances même. Et donc, c'est donc en Jésus-Christ que les croyants sont l'objet de la grâce de Dieu. C'est en Christ qu'ils sont appelés à la gloire de Dieu. Et c'est en union avec Christ qu'ils sont perfectionnés. Et je voudrais terminer avec un verset dans l'Épître aux Hébreux qui souligne pour Christ exactement ce que Pierre vient de dire en 1 Pierre 5 et verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 9 à 11. Et soyez attentifs à la lecture de ce passage et pensez à ce que l'on a dit et voyez comment cela s'accomplit pour Christ. Il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, et pour que personne ne se trompe, il le cite, Jésus. Nous la voyons comment ? Couronnée de gloire et d'honneur, la gloire éternelle. À cause de la mort qu'il a soufferte, les souffrances, afin que par la grâce de Dieu, le Dieu de toute grâce, il souffrit la mort pour tous. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, Dieu, qu'est-ce qu'il voulait faire Dieu? Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, croyants, éleva à la perfection de souffrance le prince de leur salut. C'est exactement ce que Pierre dit ici. Hein? Il dit que le Dieu de toute grâce, il dit que par la grâce de Dieu, Jésus-Christ a souffert. Mais pourquoi est-ce qu'il a souffert? Parce que Dieu, par qui sont toutes choses, voulait amener à la gloire beaucoup de fils. Dieu qui vous appelle en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, il voulait avoir à la gloire beaucoup de fils. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait mourir son propre fils. Il a élevé son propre fils à la perfection en le faisant mourir pour nos péchés. Et maintenant, il est couronné de gloire. Il dit de ce Dieu-là qui veut, qui a amené Christ de cette manière, couronné de gloire, veut vous faire rendre participant de cette même gloire. Mais il ne le fera qu'en vous faisant passer par les instruments qu'il a utilisés. Il a élevé Christ à la perfection par la souffrance. Il vous fortifiera, il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous rendra inébranlable, mais par la souffrance aussi. Christ a souffert un peu de temps. C'est écrit aussi dans le passage, hein? Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps. Okay? Ce n'est pas pour tout le temps. Pierre le dit aussi. Vous souffrez pour un peu de temps. Christ, c'était aussi un peu de temps. Le temps qu'il a passé sur la terre. Son peu de temps, c'était 33 ans. 33 ans de pleine souffrance. Du premier jour jusqu'à sa mort. Et il dit qu'il a accompli une œuvre glorieuse à travers lui. Et donc Pierre dit, vous souffrez, certes, c'est difficile, mais voilà une chose que vous devez faire. Méditez sur le caractère de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu vous a appelé à sa gloire éternelle. Dieu permet que vous souffrez pour un peu de temps. Il utilise la souffrance pour vous perfectionner. Pour vous perfectionner. Regardez ce qu'il a fait pour Christ. Il fallait qu'il le fasse. Jésus lui-même, il dit, et ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans la gloire? Il n'y a pas de possibilité autrement. Donc voilà ce qui est propre à réconforter ceux qui souffrent, chers frères et sœurs. Si vous êtes dans la souffrance pour Christ, eh bien que ces paroles du Seigneur vous encouragent, nous encouragent. Ne laissez pas la souffrance vous décourager. Elles indiquent que vous êtes l'objet de la grâce de Dieu, que vous êtes l'objet de son amour, tout comme Christ fut l'objet de la grâce de Dieu. Donc si on est en Christ, la souffrance est le témoignage de l'œuvre de Dieu dans notre vie qui précède la gloire éternelle. Mais si on n'est pas en Christ, la souffrance n'est que le témoignage d'une souffrance plus grande à venir, loin de la gloire éternelle. Souffrance, l'Apocalypse dit, le tourment qui monte au siècle des siècles, le feu qui ne s'éteint point, le ver qui ne meurt point. Donc ce passage est un appel aussi à venir à Christ dans la repentance. Dans la repentance, parce que c'est en lui qu'on est appelé à la gloire éternelle. Et donc aujourd'hui est encore le jour du salut, où nous pouvons venir à Christ dans la véritable repentance et dans la foi en Jésus-Christ. Qu'il agisse dans nos cœurs par sa toute-puissance. Prions. Nous te remercions pour ta parole, notre Dieu. Nous te remercions parce que tu es le Dieu de toute grâce. Celui qui nous sauve en Jésus-Christ. Merci pour cet appel en Jésus-Christ, cet appel à la gloire éternelle. Et nous voulons te dire merci pour les souffrances par lesquelles tu nous fais passer. Pas celles qui sont liées à notre désobéissance, que pour cela nous puissions nous repentir, mais Seigneur, celles que tu permets dans notre vie, afin de nous fortifier, afin de nous rendre inébranlables. Donne-nous d'être, comme Pierre le suggère ici, dans la contemplation de ce que tu es et de ce que tu fais depuis toujours. Tu es toujours le Dieu de grâce qui déverse abondamment, continuellement, profondément sa grâce sur nous. Et tu es celui qui agit en nous, à travers des instruments parfois douloureux, mais pour nous conduire à toi. Nous te remercions, nous te louons, nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas ici, Seigneur, afin que tu attires leur cœur à toi. Et Seigneur, que tu les sauves et que tu les rendes aussi participants de ta gloire. Oui, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Nous savons que tous ceux qui ne sont pas en toi sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus-Christ, tu permets qu'ils puissent être participants de ta gloire. Attire, nous t'en prions, pour la gloire de ton nom. Amen.